le petit fakir.
Tout le monde a lu ce petit journal.
Bizarre.
Il se le passe.
Pour ne pas dire étrange.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique?
Le petit fakir n'a jamais peur du pire.
Bizarre.
Alors on est avec François Ruffin, qui participe, qui anime le journal Fakir. On va parler tout de suite écologie. On va revenir sur votre dossier qui commence par un reportage au Forum social du développement durable.
Forum mondial.
Autant
vous l'avez dit tout à l'heure, on fait pas les choses à moitié. On va pas au Forum social du développement durable. On va pas au Forum amiénois du développement durable. On va pas au Forum Picard du développement durable, mais au Forum mondial.
Et alors, moi j'étais un peu surpris parce que je pensais que c'était une cause du peuple, l'écologie, et là on se rend compte que ça concerne tout le monde, et y compris les grands chefs, par exemple, de British Petroleum, BP, une des plus grosses entreprises pétrolières du monde. Ben, eux aussi, ils s'engagent
pour la planète.
Pour la planète, ouais.
Et c'est beau. Non, et effectivement, on s'est rendu, donc, c'était au Sénat, dans les sous-sols du Sénat, au 6e Forum mondial du développement durable. Alors, normalement, il faut le dire en anglais, un poids sérieux, 6th World Forum of Sustainable Development, comme je fais quelque chose comme ça, quoi. Il y avait là-bas Philippe Douste-Blazy. On nous avait promu Alain Juppé, c'était sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy, donc vous voyez, c'était quelque chose de vraiment sérieux. Et effectivement, ce qui était encore plus attrayant, c'est que dès l'ouverture, on avait Patrick Haas, président de British Petroleum France. Pour la session numéro 1 sur les priorités, on avait Philippe Lambert, directeur de la communication de British Petroleum France. Et ensuite, on avait comme rapporteur à la session 2, Patrick Haas à nouveau sur les financements, président de British Petroleum France. Et pour les conclusions, revenait Philippe Lambert, directeur de la communication de British Petroleum France. Donc c'était quand même assez intéressant. En fait, la diversité, si vous voulez, là, c'était une fois l'industrie nucléaire, une fois l'industrie pétrolière. Et c'est ça qui constituait une forme de diversité intellectuelle, quoi, si vous voulez.
Bon, évidemment, c'est un casting assez particulier pour sauver la planète, mais ils ne sont pas sans solution.
Il y a deux types de solutions.
Mes convictions à moi ont vacillé quand je lis leur proposition. Peut-être tu peux essayer de convaincre les auditeurs.
Oui, ils ont deux types de solutions. En fait, trois. La première solution, c'est de dire qu'il va y avoir des technologies formidables qui vont permettre d'enfermer tous les gaz à effet de serre sous terre ou alors sur la Lune, ou enfin un certain nombre de choses comme ça. Ils ont un deuxième mode de solution qui est de dire que finalement, c'est le capitalisme qui pose le problème et c'est plus de capitalisme qui va permettre de résoudre le problème puisqu'on va mettre tout ça sur le marché, on va créer un marché des gaz à effet de serre, on va créer des marchés, et à partir du moment où il y aura des marchés, tout va s'autoréguler. Et il y a une troisième solution qui est quasiment une solution d'ordre caritatif. Quand on entend Philippe Douste-Blazy venir dire « Bon, bah nous, si vous voulez, moi qui suis à l'ONU maintenant, parce qu'il est à l'ONU maintenant, Philippe Douste-Blazy, parce qu'on envoie ceux qui ont le plus de charisme comme ça, on les envoie au plus haut poste de responsabilité, donc il est à l'ONU, il dit bah, « Moi, j'ai été démarché, tous les responsables d'entreprises internet qui vendent des voyages, et si vous voulez, une grande conquête sociale, c'est qu'on a réussi à mettre une petite boîte. Quand on achète maintenant un voyage par avion, il y a une petite boîte où vous pouvez verser $1 ou $2. Et bon, et c'est comme ça qu'on va...
Mais c'est pas obligatoire.
Ah non, c'est volontaire. De toute façon, pour que ça soit bien perçu, il faut que ça soit volontaire maintenant. Donc là, c'est un impôt volontaire, une donation volontaire que feront sans doute, et bon, ça nous est présenté comme le truc, cette petite box, comme le truc qui va venir résoudre à la fois les problèmes de fossé nord-sud et les problèmes de développement durable, de réchauffement climatique, ainsi de suite. Ce qui m'a paru intéressant, bon, c'est un discours que, au fond, on connaît, mais c'est quand on dit à Philippe Douste-Blazy, quand on dit à Monique Barbu, donc, qui est responsable du Fonds international sur le réchauffement climatique, mais regardez, vous êtes quasiment pas financé. Je crois bien qu'elle reçoit 100 millions d'euros par an pour résoudre les problèmes de financement de réchauffement climatique, qui est absolument dérisoire. Et qu'on lui dit, mais regardez, à quelques pas de vous, il y avait le président de British Petroleum France. British Petroleum, c'est 14 milliards d'euros de bénéfices sur une seule année. Donc, c'est-à-dire, c'est vachement plus que ce que reçoit le Fonds international sur le réchauffement climatique. Pourquoi vous ne les taxez pas? Pourquoi vous n'allez pas chercher de l'argent de ce côté-là? Et là, il y a un trou dans le discours. c'est on entend plein de chez des gens qui sont habitués à discourir en permanence en public. Là, il y a des qui se font jour. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme si c'était l'espace dans lequel il y avait le doute. C'est-à-dire qu'ils savent qu'au fond, le modèle qu'ils développent, c'est un modèle qui est mort, de dire le capitalisme va se réguler. Ils n'arrivent plus à y croire. Et il suffit qu'on mette le doigt sur ce point-là pour qu'il y ait comme du malaise qui surgisse, y compris chez ces dirigeants de l'élite bourgeoise, on va dire.
Alors, sur ce dossier, moi, juste une dernière question. Évidemment que ça apparaît comme une énorme blague de voir British Petroleum, les plus gros de l'industrie nucléaire, enfin tout ce qu'il y a de plus polluant, venir essayer de se décerner un petit liseré vert dans les sous-sols du Sénat. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, finalement ? Est-ce qu'ils n'ont pas... Le risque du ridicule est quand même assez grand.
Et moi, je pense que... Je l'ai dit là, mais je pense qu'ils ont mauvaise conscience. Oui, je pense qu'il y a une mauvaise conscience qui est latente et que ces formes de débat-là, c'est quelque chose qui permet de combler leur mauvaise conscience, de se dire, bon bah finalement, si vous vous levez le matin en disant « je travaille pour une industrie qui est pourrie et je suis un pourri moi-même », vous ne pouvez plus faire votre boulot jusqu'à la fin de la journée, ou en tout cas jusqu'à la fin du mois ou jusqu'à la fin de l'année. Il me semble que c'est compliqué de se vivre comme ça mentalement en permanence. Et ces formes, là on est dans une forme de réassurance collective, c'est-à-dire qu'individuellement il y a du doute, et ben là il va y avoir une parole publique qui va être développée avec l'ONU, avec les industriels, avec le Sénat, avec les parlementaires français, et tous vont développer une parole publique assez propre, assez nette comme ça, qui va permettre de faire taire cette mauvaise conscience. Et pour moi, c'est ça la principale fonction de ce type de forum, c'est de collectivement faire taire sa mauvaise conscience.
Au-delà de la mauvaise conscience, c'est surtout l'idée d'endormir les gens, ou en tout cas de faire croire aux clients et aux consommateurs que justement la boîte n'est pas pourrie et qu'elle n'est pas en train de les détruire, mais plutôt d'aider aussi la planète elle-même à s'en sortir. Parce qu'à un moment où, dans votre article où le président de British Petroleum est interpellé, il y a un économiste qui répond à sa place et qui rappelle quand même que le rôle de l'entreprise, c'est pas du tout de régler les maux de la planète, c'est de créer de la valeur.
Oui, mais c'est-à-dire, bon, il y a cette fonction, mais qui est plus évidente avec les publicités. Alors là, je te donnais tout à l'heure un cahier offert par France Inter.
Je voulais te remercier d'ailleurs.
Ouais, qui était pour le développement écologique, soi-disant. Donc Radio France avait offert un petit cahier sous emballage plastique sur lequel il y a marqué écologie, protection de la nature, nature care, commerce équitable, fair trade, action solidaire, social actions. Donc bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont faites en direction des salariés, ou la publicité à la télévision pour les voitures vertes qui sont faites en direction des consommateurs. Mais là, ce type de forum, il faut bien voir que ça a beau s'appeler 6e forum mondial du développement durable, c'est quelque chose d'assez intime. Finalement, j'entre dans la salle, je m'attendais à ce qu'il y ait des centaines de personnes. Il y a 80 personnes et la plupart, c'est des étudiants qui ont dû être prisonniers et condamnés à y aller par leurs profs. C'est-à-dire que n'importe quel forum social qui se déroule à Chambéry, n'importe quel teuf à Babeuf qui se déroule à Amiens, finalement, c'est déjà un forum intergalactique, quoi, comparé au nombre de personnes qu'il y a là. Mais simplement, je pense que là, la fonction, c'est plus qu'ils ont besoin de se parler entre eux et de se réassurer collectivement. Donc ça, c'est moins en direction des consommateurs que moins l'élite qui a besoin de se parler à elle-même, quoi.
Alors, pour sauver la planète, y a beaucoup d'idées. La concurrence est rude. Le tri sélectif, les piles rechargeables, enfin, tout notre quotidien va être profondément modifié parce qu'il faut sauver cette planète. Et même l'industrie automobile s'y engage. C'est un des premiers, des premières solutions que vous examinez, que vous passez au crible. C'est un petit peu que choisir vert que vous inventez. Alors, est-ce que la prime à la casse est vraiment ce qui permettra de sauver la forêt amazonienne et nos belles campagnes?
Oui, donc on a fait simplement un calcul. Vous savez que la prime à la casse était vendue comme une mesure non seulement de relance économique, mais aussi comme une relance écologique, puisqu'on avait des vieilles voitures qui polluaient. Et maintenant, on allait en racheter à la place des jeunes voitures qui sont des voitures propres, en fait. Hein, on appelle ça les voitures propres. Des voitures vertes ou des voitures propres. Il y avait un certain nombre de publicités de Renault, de Peugeot, qui ont, y compris, parfois été condamnées par des instituts publicitaires à l'étranger. Mais donc, on s'est dit, ben, on va voir, je vais faire le calcul. Donc, j'ai téléphoné à Renault pour savoir quelle était la différence entre la consommation de CO2 d'une voiture achetée aujourd'hui et celle d'une voiture achetée il y a 10 ans. Combien on roulait avec ça? Bon. De toute façon, quelle que soit la manière dont on fait le calcul, et j'attends les calculs plus sérieux de journalistes spécialisés en automobile ou du ministère de l'Industrie ou des firmes Renault ou Peugeot. Mais enfin, dans l'ordre de grandeur, il n'y a pas photo. Garder son ancienne voiture, ça pollue beaucoup moins. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas prise en compte, c'est le coût écologique de la production d'une voiture. Et qui est quand même pas quelque chose de négligeable, parce qu'il y a de la tôle, enfin il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et quand on intègre le coût écologique de la production d'une voiture, ben ça casse tout. Donc il est évident que cette mesure de prime à la casse qui était présentée comme écologique, ça l'est pas. Donc c'est l'une des mesures, c'est l'une des choses qui fait qu'il s'agit de repeindre le capitalisme aux couleurs vertes.
Je te trouve quand même bien, bien pessimiste. Il y a quand même une autre solution qui est proposée. On se rend compte que les riches ne sont pas tous sans scrupules, que certains se préoccupent nettement de l'environnement, particulièrement les propriétaires de yachts.
Voilà.
Ouais, mais ils aiment la nature.
Voilà. Le truc, c'est toujours cette histoire d'impôt volontaire. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe Douste-Blazy qui voulait mettre une petite box sur les sites où on peut acheter des billets d'avion en ligne, où on pourrait verser $1 ou $2 pour le développement des pays du Sud. Là, la nouvelle possibilité, c'est que les propriétaires de yachts payent un impôt volontaire sur leur consommation pour avoir un bilan carbone neutre. Bon, alors là, évidemment, on est dans la rade des yachts, le salon du Yachting Club à Monaco, où on a des yachts qui font 25 mètres, 30 mètres, sachant que 1 mètre, c'est grosso modo 1 million d'euros. Donc, un yacht consomme entre 800 et 2000 litres par heure de circulation, quoi, ou même quand c'est au parking.
En rappelant que 650 litres de carburant, c'est la consommation annuelle moyenne d'un automobiliste.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'en une heure, un yacht consomme à peu près la consommation d'un automobiliste sur une année. Bon. Et là, on a, pendant ce forum, ce salon du yacht, on a quand même la remise du prix du développement durable. Mais donc c'est une pastille, enfin bon, il y a un yacht. Alors on arrive devant un yacht avec l'architecte, avec l'expert, qui a un expert italien qui a décidé que c'était ce yacht-là qui allait remettre, qui allait obtenir le prix cette année du développement durable. On se retrouve devant le Green Label, on se retrouve devant ce yacht qui est, je m'attendais à un petit voilier sympathique, quoi, mais qui est une énorme masse noire gigantesque avec trois ponts, vraiment un truc terrible, quoi. Et il explique qu'en fait, bon bah voilà, c'est à double paroi, donc jamais le pétrole ne fuit, et si quand vous allez aux toilettes, et ben c'est conservé à l'intérieur des fosses et c'est pas rejeté dans la mer. Donc vous voyez bien, c'est du développement durable, même si ce bateau consomme 2000 litres. Donc on est là toujours dans la même logique, y compris jusque ces produits qui sont les plus inutiles, les plus polluants. On est toujours dans la même logique, qui est d'apposer une pastille verte sur les produits, enfin sur ce qu'il y a de plus délirant dans le système actuel, quoi.
Congélateur dernier cri.
Je l'ai.
Cafetière programmable.
Je l'ai.
Écraseur compresseur à bouteille.
Je l'ai aussi.
Lave-vaisselle économique.
Je l'ai.
Machine à laver le lave-vaisselle économique.
Je l'ai.
Machine à laver la machine à laver le lave-vaisselle économique.
Je l'ai.
Ouvre-boîte électrique.
Je l'ai.
Multi-robot, multifonction, machine à laver la cervelle.
Pareil, je l'ai.
Couteau à huître.
Je l'ai.
Couteau à beurre.
Je l'ai.
Diffuseur, absorbeur d'odeur.
Je l'ai.
Poubelle belle, auto-nettoyante.
Je l'ai acheté, je l'ai.
Fouille tout, mélange tout.
Je l'ai depuis le début, quand c'est sorti, je l'avais acheté.
Fourchette auto-nettoyante.
Pareil, je l'ai aussi.
Écosseuse à petits pois.
Je l'ai.
Coupe-pognon thermique.
Je l'ai aussi.
Toaster radio intégré.
C'est pareil.
Centrifugeuse à neutrons.
Indispensable.
Auto-lavant solaire.
Je l'ai.
Équateuse multi-cerise.
Ouais, pareil.
Porte-couteau. Porte-serviette.
Je l'ai.
Porte-secours en cas de besoin.
Je l'ai aussi.
Exhausteur de saveur.
Pareil.
Petit guide du manger
sain. Oui, je l'ai.
Une cloche à fromage qui sonne.
Je l'ai.
Qui t'attend à chaque repas. Un attrape-nouille.
J'ai pas ça, j'ai pas. Je vais le commander ça. Je l'ai pas. Attrape. Nouille. Nouille comme nouille. Avec deux L donc.
Alors on est toujours avec François Ruffin, on explore toujours le dossier sur les questions écologiques dans le numéro de Fakir, numéro 43, et une question nous taraude, c'est si on décide de ne pas se déplacer en yacht, même si avec le label vert, ou si on décide de ne pas avoir deux voitures chacun, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des pistes ? Parce qu'on sait que le débat est assez violent. Il y a une actualité de l'écologie avec des gros débats. Quelle vision vous avez à Fakir des perspectives écologistes sérieuses ?
Déjà, quand la question est posée sur qu'est-ce qu'on peut faire, pour moi, ce n'est pas un « on » de l'individu. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je peux toujours décider d'aller acheter des produits de commerce équitable, de choses comme ça, mais ce n'est pas ça qui change la donne. La donne, elle change. Quand on parle de... André Gors parlait d'écologie politique, on parle d'écologie politique, de politique, c'est-à-dire de décisions qui sont prises ensemble et qui transforment l'ensemble de la société et pas juste ce que toi, Pierre, tu déciderais de faire. Enfin, c'est il faut le rappeler. Je vais partir... d'une anecdote qui avait été relevée dans un premier temps dans le Canard enchaîné par Jean-Luc Porquet, qui est quelqu'un qui travaille régulièrement quand même sur ces questions-là. Et il avait relevé qu'en Écosse, une fabrique de langoustines avait fermé. Elle avait fermé en Écosse une fabrique de langoustines et le patron qui s'appelle Mike Powell avait dit que c'était une décision extrêmement difficile à prendre, quoi, mais il avait pris cette décision extrêmement difficile et il avait décidé que désormais les langoustines continueraient d'être pêchées en Écosse, mais qu'en revanche elles seraient envoyées en bateau en Thaïlande pour être épluchées, puis qu'une fois qu'elles seraient épluchées, elles reviendraient en Écosse pour être éventuellement conditionné et être vendu sur les marchés européens. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un truc qui était tout simple, qui était que les produits étaient fabriqués localement, transformés localement et consommés localement. Et là, on arrivait à la fin à un truc où, finalement, il y avait 20 000 km qui étaient effectués par les langoustines avant d'être consommés en supermarché. Donc là, il y a eu une insurrection à la fois des élus locaux qui ont dit c'est une décision aberrante sur le plan social parce qu'il y avait eu un certain nombre d'emplois, je me souviens plus, 150 ou quelque chose, 120 emplois qui étaient supprimés. Et il y a eu une réaction aussi des Amis de la Terre qui ont dit regardez ce gaspillage, c'est comme s'il y avait, une demi-tonne de CO2 par tonne de langoustine consommée. Chaque fois qu'on consommait une tonne de langoustine, il y avait une demi-tonne de CO2 qui était rejetée pour sa consommation. Donc ils ont dit c'est complètement illogique, c'est aberrant et puis tout ça. Non, quand on regarde combien est payé un ouvrier écossais, il est payé 9 euros. Quand on regarde combien est payé...
Par jour ?
Non, par heure. Ah. Quand on regarde combien est payé un ouvrier thaïlandais, il est payé 50 centimes de l'heure. Vous voyez ? Donc, quand on faisait le calcul, la Seafood Company, la Young's Seafood l'a fait ce calcul. Eh bien non, il était parfaitement logique, parfaitement normal d'aller transformer ces produits en Thaïlande. Donc si on veut raisonner autrement que par de la morale en disant à Young Seafood, c'est pas bien ce que vous faites, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça soit plus coûteux pour les entreprises d'aller faire trois fois le tour de la planète à leurs marchandises que simplement leur faire trois fois le tour de la planète pour qu'elles nous reviennent dans l'assiette.
Le petit fakir.
Tout le monde a lu ce petit journal.
Bizarre.
Il se le passe.
Pour ne pas dire étrange.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ?
Le petit fakir n'a jamais peur du